15h04, bienvenue mesdames, messieurs, dernière heure du week-end à passer ensemble et on s'en va du bon bord. Hein? On a cette impression-là tout à fait légitime.
Les nouvelles sont bonnes en tout cas. Cette semaine, c'était quand même relativement positif. Il reste encore énormément de travail. Tu sais, aujourd'hui, on n'a eu que 8 morts, mais c'est quand même 8 morts de trop.
Tout à fait.
Hein? C'est une maudite cochonnerie. Et il y a eu encore 225 personnes qui l'ont attrapé de plus. Mais on voit que ça régresse. Ça, OK, ce côté-là, c'est bon. Du côté de l'emploi, il y a de l'espoir. 230 000 emplois de créés quand même au Québec au cours du mois de mai. Alors, il y aura amélioration au fur et à mesure. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va se retrouver un emploi au cours... Regarde, on attendait la dame juste avant, là. Et malheureusement, ben ça va être difficile pour bien des gens. Mmh. Alors, il y a des gens qui vont tomber entre deux chaises encore une fois. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement fédéral ou encore le gouvernement du Québec devra combler les cracks, comme le premier ministre Legault le dit. Le fédéral met des programmes en place et le gouvernement du Québec est là pour lisser les choses, pour permettre aux gens d'être capables de continuer à vivre, en tout cas une certaine normalité. Alors donc, c'est ça.
Et déjà, avec les restos, là, le semblant de vie normale va être encore plus fort avec le retour des restaurants à l'extérieur du Grand Montréal. On pense donc le 15 juin, mais peut-être aussi à Montréal. Il y a des revendications en ce sens. Et puis, tu sais, si tu fais attention, là, c'est un peu comme dans le commerce. Là, quand tu vas dans le commerce ces temps-ci, peu importe où est ton commerce. Et éventuellement, j'ai l'impression... qu'avant les 4 ans, les 5 ans dont certaines personnes parlent, là, j'ai l'impression que même le secteur aérien... Moi, je pense que ça va reprendre avant
ça. Oui, mais non, ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps.
Question de confiance aussi des gens.
Oui, c'est ça.
Ça prendrait idéalement un vaccin, mais là...
Avec un vaccin, ça va régler tout le problème.
T'as vu que Fauci, c'est pas la première fois qu'il dit ça, lui, il est très confiant aux États-Unis.
Oui, avec Gilead, là, entre autres, là, et d'ailleurs, AstraZeneca, qui est... T'es en train de faire des beaux yeux à Gilead pour être capable de trouver une façon de fusionner. Il y a eu déjà des rencontres préliminaires il y a un mois. Ça semble vouloir se poursuivre. Je ne suis pas sûr que le gouvernement américain va dire oui. Par exemple, s'ils vont vouloir s'approprier le vaccin, ça c'est clair. Mais tu vois qu'il commence à avoir des choses qui bougent. Là. Et pour revenir au site d'emploi que je disais tantôt, là, ça s'appelle « Je travaille ». Et il y a quand même pas mal de choses là-dedans de disponibles. C'est sûr et certain que on a besoin d'électromécaniciens, on a besoin de conducteurs, on a besoin de préposés des machinistes, on a besoin de main-d'œuvre en manutention, on a besoin de caissières, on a besoin de boulangers, on a besoin de toutes sortes de métiers. Alors, des emplois qui sont disponibles, c'est sûr qu'il n'y en a pas des milliers, mais il y en a quelques-uns. Je vous invite à aller sur la plateforme Emploi Québec également, où il y en a quand même pas mal. Et j'invite les employeurs aussi à s'inscrire sur cette plateforme-là pour leur permettre d'ailleurs de se trouver des employés si vous en avez besoin.
Oui, tout à fait.
Et n'oubliez pas une chose, employeurs, que pour vous permettre de passer au travers, il y a bien entendu la SSU selon certains critères, mais il n'y en a même pas moins que ça peut vous aider.
Ben oui, puis il faut s'inscrire.
Ben oui, tout à fait.
Et c'est à peu près toutes les entreprises qui sont admissibles, là. Et ça prend l'inscription. Et je dirais que la subvention salariale d'urgence, c'est un des meilleurs programmes de l'histoire du pays.
Puis tu vois, regarde, dans les emplois pour jeunes, il y en a plein. Tu sais, on parlait des pépinières, on parlait de quincaillerie. Je remarquais, c'est pour ma région à moi, là, travail de préposé à la cour à bois, on a besoin de gens en production horticole, on a besoin d'horticulteurs, effectivement. On a besoin d'assistants techniques en pharmacie et de caissiers de laboratoire. On a besoin de journaliers chez Saint-Hubert, entre autres, à Beaubriand. Dans les garderies, on a besoin de beaucoup d'éducatrices. Il y en a plusieurs qui ont déserté, malheureusement. On a même besoin, dans certaines résidences, de préposer aux bénéficiaires. On a besoin d'infirmières auxiliaires, des cuisinières, de l'entretien ménager. Il manque de monde partout dans le secteur de la santé.
C'est ce que je pense. Je pense que, éventuellement, dans un horizon court terme, on va retourner à la situation de pénurie de main-d'œuvre.
Ben, dans le domaine de la construction.
C'est une méchante bonne nouvelle, en fait.
Ben, en fait, c'est pas très bon.
Mais ça veut dire qu'on va retrouver, François, une vigueur économique.
Oui, mais je comprends, mais c'est parce que dans certains secteurs, il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre. On commençait déjà à le sentir dans le domaine de la construction commerciale.
Oui, tout à fait.
Et même peut-être, même à certains égards, dans la construction résidentielle. Mais dans d'autres secteurs, là, il y a trop de main-d'œuvre. Et là, on va se retrouver avec des conditions qui sont complètement autres que ce qu'on avait connu au cours du mois de février.
Est-ce donc ça va favoriser du cheap labor, comme tu dis?
Bien, c'est ma crainte, mais j'ai pas une crainte extrême. C'est toujours ma crainte qu'on revienne en arrière, qu'on fasse quelques pas en arrière. Est-ce que c'est pour mieux rebondir? Il y en a plusieurs là-dedans. Il y a plusieurs entrepreneurs qui voudront réembaucher à des conditions moindres parce qu'ils sont déjà fragilisés eux-mêmes. Ça, je peux le comprendre. Mais c'est comme ça qu'on va rebâtir.
Le Québec a été champion au mois de mai de la reprise de l'emploi. Mm-hmm. On a vu les chiffres, là. Et hier, tu nous disais pourquoi, là. À l'instar de 2008, notre économie qui est diversifiée.
Ouais, mais c'est parce
qu'on a déconfiné plus rapidement.
C'est difficile de comparer 2008 à aujourd'hui. 2008, c'est une crise financière. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire. C'est deux choses complètement différentes. Alors donc, on a décidé de pourquoi le Québec est champion là, de la création d'emplois au mois de mai? Parce que on a commencé à déconfiner un petit peu plus rapidement que les autres. Oui. Quand tu déconfines et que tu permets donc aux travailleurs de retourner et retrouver leur travail, c'est un peu normal qu'on en crée plus rapidement que les autres. Alors donc, les autres, un jour, ils vont nous rattraper, mais nous autres, quand on a mis la switch à off, on l'a mis à off.
Pas à peu près, parce qu'en Ontario...
On était les pires. N'oubliez pas qu'au mois d'avril, on était celui de la province qui avait le plus haut taux de chômage au Canada avec 17 %. Là, on est à 13,7, mais avec la plus forte création d'emplois.
Mais ce qui est encourageant, parce que même si une des raisons, c'est de dire, oui, on a déconfiné plus rapidement, mais l'Ontario n'avait pas confiné la construction au même niveau que nous l'avons fait. Là. Non,
la construction commerciale a continué pendant de nombreuses semaines, alors que nous, c'était déjà arrêté. Alors, le 16 mars, là, c'était terminé. Là. On a mis le Québec sur pause. Et ça, sur le coup, là, ça surprend. Première semaine, c'est drôle. Deuxième semaine, t'as la PCU qui arrive, c'est correct.
C'est ça, c'était pas...
Troisième semaine, ça commence à être long, puis au bout d'un mois et demi, là, tout le monde se grattait le fond de la tête pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans trois mois.
C'était-tu épouvantable comme période?
Alors donc, là, on commence à déconfiner tranquillement. Là, demain, j'ai hâte de voir, outre la restauration à l'extérieur du CMM, si, bien entendu, il y aura d'autres choses qui risquent d'arriver aussi, là.
Ben, j'espère.
Ben oui.
J'ai l'impression.
Ben oui.
Alors, demain, à 13h.
Oui.
15h12 maintenant, nous allons parler avec Denis. Bonjour, Denis.
Bonjour.
Bonjour.
Félicitations à votre programme.
Oui, on vous écoute.
Bon, moi, j'ai 83 ans.
Oui.
Et puis, j'ai eu une opération en 2010.
Mm-hmm.
J'ai perdu la vue.
OK. Ben,
complètement, là, j'ai à peu près 4 sur 20.
OK.
Et puis là, ben, j'ai su que je pouvais avoir une chose d'impôt là, pour les handicapés.
Oui, crédit d'impôt pour personnes handicapées, oui.
C'est ça. Et puis, nous sommes en appartement.
Mm-hmm.
Nous ne sommes pas, moi et mon épouse.
Oui.
Mon épouse a fait un ACV en 2010.
Okay.
Moi, j'ai été opéré en 2010, mais c'était une erreur médicale.
OK.
Et puis là, ben, je voudrais savoir, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir ça, cette aide-là.
C'est très, très facile. Alors, vous allez voir votre médecin traitant. Vous devez avoir un médecin traitant. Alors, vous y faites remplir, prenez ça en note, le
T-2200. T-2200.
Oui. Alors donc, ça, c'est pour prouver que vous avez un réel handicap, que vous allez envoyer en deux copies, un à Revenu Québec, l'autre à Revenu Canada. Et là, vous allez attendre, là, ils vont vous dire, oui, on vous accepte, et ça vous donnera le crédit d'impôt supplémentaire auquel vous avez droit.
D'accord. Parce que là, voyez-vous, ça fait 39 opérations, j'ai des yeux, là. Et puis là, ben, je suis tenu, j'en veux plus, là.
Non, je comprends ça, là.
Hein? Puis là, je fais du glaucome au dernier degré, fait que je peux pas aller à l'hôpital, je suis refusé.
OK.
À cause de la maladie, là.
OK, oui.
Oh non, mon âge, en plus.
OK.
Fait que là, c'est pour ça que je voulais savoir si je pouvais faire une demande pour ça.
Et vous pouvez même faire une demande rétroactive, c'est-à-dire reculer une couple d'années en arrière, en plus. Alors, vous avez juste à dire à votre médecin traitant, ben moi, j'ai cette condition-là depuis tant de temps, et votre médecin va l'écrire, tout simplement. Depuis 3 ans, monsieur souffre de problèmes aux yeux, de la difficulté à avancer parce qu'il ne voit pas assez clair, etc., etc. Là. Alors donc, ça va être à lui à faire le travail. Là. Vous envoyez ça à Revenu Canada et à Revenu Québec, et une fois que Revenu Canada l'aura accepté, il n'y aura plus de problème.
Est-ce que je pourrais vous poser une autre question, monsieur?
Oui, allez-y.
J'appartiens à l'Institut Navarette.
L'Institut quoi? Ça fait quoi, ça?
C'est l'Institut des handicapés visuels.
OK, oui.
C'est à Longueuil.
OK.
Et puis là, ben, est-ce que je peux faire la demande là, vu que je suis enregistré là?
Bien,
d'après moi, ils peuvent vous aider.
Fort probablement. Il y a certainement des ophtalmologues qui sont là, ophtalmologistes qui doivent vous suivre. Alors, ils sont habilités à le remplir. Même une infirmière maintenant peut le remplir.
Ah, d'accord.
Alors, ça vous va?
Et j'ai juste une petite question, monsieur.
Oui.
Là, ils veulent couper mon assurance vie. Je voudrais savoir pourquoi ils veulent couper mon assurance vie. J'ai eu une lettre en disant que en 2027, si je suis encore vivant, que j'aurais plus d'assurance vie pour m'enterrer.
Parce que vous aurez atteint l'âge vénérable de 85 ans et plus, je pense.
90 ans.
90 ans. Alors, vous allez avoir atteint l'âge vénérable de 90 ans, tout simplement. Alors donc, à ce moment-là, souvent, les compagnies d'assurance, là, je vous dis ça sous toute réserve, là, quand même, souvent, il y a des limites dans le temps pour les compagnies d'assurance, et fort probablement que vous aviez une assurance qui était limitée. Au moment où vous allez atteindre 90 ans, ben l'assurance se termine, et si vous aviez un rachat à l'intérieur, ils vont vous rembourser certaines sommes. Mais ça arrive fréquemment, ça. Ça vous va? Malheureusement, il faut passer à tout appel.
Hey, merci d'avoir appelé.
Vous êtes gentil. Hey, portez-vous bien surtout. Là.
Bon courage.
N'oubliez pas le T2200, mon cher monsieur.
Merci. T2200. Pour le crédit d'impôt.
Ouais.
Pour les
personnes handicapées.
Parfait, très bien. André, bonjour, André.
Bonjour.
Oui, bonjour.
J'aurais une petite question pour vous.
Oui.
Oui, on était arrêté de travailler, nous, le 24 mars.
Oui.
Puis on a recommencé à travailler le 14 avril. Est-ce qu'on a le droit au premier versement de la PCU?
Non, malheureusement. Même pas au deuxième.
Au deuxième, on le savait, là, mais au premier, on sait qu'on se
non, contacte. Parce que vous avez arrêté après le 15 mars. Ça a commencé le 15 mars.
Okay.
Vous n'êtes pas chanceux, là. Vous venez de perdre 2 semaines. Là.
C'est en plein jour, mais on a arrêté quasiment 3 semaines même.
Ouais.
Ça fait 20 jours en tout et partout.
Oui, parce que normalement, à l'époque, c'était 14 jours sans salaire. À cause de la COVID-19. Alors, donc, 14 jours, ça vous venait donc au 11, mais là, vous avez recommencé le 14.
C'est ça.
Fait que la deuxième séquence commençait le 11.
OK.
Là, vous avez perdu 2 semaines plus 3 jours.
Exactement.
Voilà. Malheureusement, c'est ça.
Bon, mais c'était ma seule question.
Merci, vous êtes gentil. C'est au revoir. Bon.
Salut, André. On va s'arrêter un petit instant. Au retour, on continuera de prendre vos appels. 514-790-9850. 1-866-790-9850. Question facile avant la pause.
Vas-y.
Ouais, il faut que je la retrouve. J'aimerais savoir comment procéder pour rembourser la PCU versée par l'assurance emploi. Tu sais, quand les gens en ont reçu en trop. Très simple, ça, là.
Non, la simplicité est la suivante. Si elle a reçu de l'assurance emploi, c'est qu'elle s'est inscrite à l'assurance emploi et elle reste sur l'assurance emploi. Elle ne rembourse pas l'assurance emploi. C'est la PCU qu'elle a reçue de Revenu Canada qu'elle devra rembourser. Et ça, c'est facile.
Et comment déjà?
On va sur le site directement de Revenu Canada et on tape PCU remboursement dans Google, puis vous allez voir toutes les instructions. C'est d'une simplicité exemplaire. On peut même le faire par transfert bancaire maintenant.
Bingo! 15h22, nous sommes de retour pour un autre blitz d'appel. Encore vos questions sur vos finances en temps de pandémie. Nous allons commencer avec Paul. Bonjour, Paul.
Bonjour. Ma question concerne 300 $ pour les aînés. J'ai regardé sur le site Internet du gouvernement du Canada et c'est indiqué que c'est pour ceux qui sont éligibles. Alors, j'ai contacté, je les ai contactés et on m'a répondu que c'était pour ceux qui étaient éligibles et non pas les prestataires. Parce que dans mon cas, je suis éligible depuis un petit bout de temps. Mais j'ai décidé de retarder ça pour profiter du fait que quand on retarde, on a une pension qui est plus élevée.
Ah, OK. Alors, donc, vous l'avez alors, pas, vous avez pas pris la sécurité de la vieillesse parce que vous avez assez
non,
de sous?
Pas, exactement. Je ah, donc, l'ai pas, vous, donc, pas encore pris.
Donc, vous alors, l'avez pas.
Bien, ce que la personne a m'a dit, elle a dit, attends un peu, je vais vérifier. Il a vérifié avec son patron.
Oui.
Et puis, on m'a répondu, vu que tu es éligible, même si tu ne l'as pas, tu vas quand même avoir droit.
Ah bon?
Alors, je voulais juste apporter ce point-là, parce que j'ai spécifiquement fait la demande auprès du ministère du Revenu.
OK.
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 Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Merci, Paul. Bonjour. On parle avec Françoise. Bonjour, Françoise.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Hein? Oui. Moi, une petite question. J'ai 70 ans. Je travaillais dans une école de janvier à juin 2019, mais de septembre 2019 au 9 mars 2020, parce que j'étais en physio. Est-ce que j'ai droit à la PCU ou...
Ben, vous étiez malade ou quoi? Lui,
ben, j'étais en physio. J'avais une blessure à un bras.
OK.
Mais c'était pas dû à l'école, mais on n'a pas d'assurance. Les surveillances de dîner, on n'a pas ça, là.
Bon, aviez-vous gagné plus que 5 000 $ l'année passée?
Oui. De janvier à juin, oui. J'ai gagné plus que 5 000 $ J'ai gagné 9 600 à peu près.
Bon, et vous ne pouviez pas retourner au travail?
Ben,
vous n'aviez aucune assurance, ni l'assurance emploi, ni rien, là.
Non, j'ai rien.
Oh, fuck, vous êtes, je pense que vous ne pourrez pas demander la PCU.
Ah, d'accord. C'est parfait.
C'est bon?
C'est ce que je voulais savoir.
C'est malheureux, mais je ne pense pas.
D'accord, merci beaucoup.
Ben, bonne très chance, bien, merci Françoise. Beaucoup. On parle avec Edith. Bonjour, Edith.
Oui, bonjour. Merci pour votre émission.
Bonjour.
Oui, j'appelle parce que j'ai réservé pour un voyage cet été. Mais avec la situation, le voyage ne peut plus avoir lieu. Et puis, j'ai essayé de communiquer avec la compagnie qui s'est chargée de nos billets d'avion. En fait, c'est un intermédiaire. Hein. J'ai acheté mes billets d'avion sur Internet d'une entreprise torontoise. Mm-hmm. Et ce qu'ils me répondent, parce que j'ai fait la demande d'annulation du voyage au mois d'avril, ce qu'ils me répondent par courriel, je l'ai reçu hier, la réponse après 2 mois, c'est que s'il faut que j'annule mon voyage, il y a des frais de près de 600 $ par personne. On a acheté 5 billets.
Ça ressemble à Air Canada, ça?
Pas nécessairement. C'est pas Air Canada, mais l'entreprise est torontoise, c'est Royal Air Maroc. Donc, l'entreprise qui... je vous explique un tout petit peu. Donc, sur le il y a comme des comparateurs de voyage. Lorsqu'on inscrit la destination, on a la compagnie qui nous offre le meilleur prix. Et on sélectionne cette compagnie-là. Donc, celle que j'ai sélectionnée, c'est une entreprise torontoise qui une agence de voyage, mais qui est à Toronto. Oui. Et j'ai fait la demande pour me faire rembourser. Déjà que c'est difficile de les appeler. Il n'y a personne qui décroche le téléphone.
Ouais.
J'ai communiqué aussi avec ma compagnie de carte de crédit Desjardins, Visa Desjardins. Ils m'ont dit qu'ils m'ont renvoyé à la compagnie, en fait. Ils ont pris ma requête et ils l'ont envoyé à la compagnie.
La compagnie vous offre quoi, elle?
La compagnie dit qu'ils peuvent annuler, moyennant des frais de 600 $ par personne.
Oui, mais là, donc, non seulement ils ne remboursent pas, mais ils vous demandent des frais supplémentaires.
Non, ben en fait, ils vont, par exemple, si le billet coûte 2000 $ ils vont lui rembourser 1400
OK, OK.
C'est ça.
Et ils disent que c'est la politique de Royal Air Maroc. Là, je n'ai pas encore eu le temps d'appeler Royal Air Maroc, je vais le faire lundi.
Mais Royal Air Maroc, vous auriez rien à faire, reporter le voyage pendant 2 ans ou quelque chose comme là?
Ben, en fait, ce que je voulais, c'est annuler carrément parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Avec les faillites, est-ce que Royal Air Maroc sera là dans 2 ans? Je ne sais pas trop. Donc, je voulais vraiment annuler pour avoir mon argent éventuellement reprogrammer le voyage une fois que la COVID sera passée.
Ben, en théorie, je pense que tout le monde veut ça. Et on y a droit, là. T'sais, c'est pas aux consommateurs à rescaper des compagnies. Mais là, le gouvernement est pas clair encore sur la question. Il est entre deux chaises. Il souhaite un équilibre entre le risque de mettre à terre les compagnies aériennes et donc pour rembourser tout le monde. Mais là, il va falloir une solution bientôt. Moi, perso, je commence à faire mon deuil, par contre, François, de mon l'argent que j'ai mis sur mon voyage. Françoise, ouais, c'est ça, on est pas mal tous dans le même bateau en ce moment. Là.
OK, donc si là, demain lundi, je vais communiquer avec Royal Maroc. S'ils me proposent le report 2 ans, j'accepte pour ne pas perdre...
En principe, si vous souhaitez un remboursement, vous devez ne pas accepter le crédit voyage.
OK. Mais à qui est-ce que je dois m'adresser pour être remboursé finalement? Parce que ma compagnie, la compagnie carte de crédit me renvoie au voyagiste et puis le voyagiste me dit que la Royal Maroc c'est 600 $. Avant d'envoyer la requête pour le remboursement à cette compagnie-là, j'avais communiqué avec Royal Maroc qui m'avait dit que vu que c'est une situation exceptionnelle, le remboursement devrait se faire sans problème.
Ouais.
Mais là, j'ai comme plusieurs sons de cloche là, selon la personne.
Et d'après moi, Royal Air Maroc, ça ne fera pas faillite. Là, parce que d'abord, ça appartient à l'État marocain. En partie, ça appartient en partie à Air France, puis une autre compagnie qui s'appelle Air Maroc. Donc, c'est un, c'est un consortium, ça, dont l'État. Okay. Fait que... est-ce que ça va faire faillite? Regarde, il n'y a pas une compagnie qui n'est pas à l'abri de la faillite par les temps qui courent, là. Mais que voulez-vous? Là, je ne peux pas prendre la décision pour vous. Je peux vous dire une chose. Prenez
la moins pire des options.
L'option de 2 ans ou encore payer, perdez 3 000 $ là, t'sais, regardez, c'est difficile pour moi de prendre une décision pour vous. Là.
C'est ça, je me demandais s'il y avait une autre...
Non, malheureusement, non.
Mais
non, parce que vous pouvez pas, vous avez acheté votre voyage à l'extérieur du Québec. Et là, il n'y a rien qui vous protège chez nous.
Ah, OK.
C'est vrai, ça, François. Très bon point. La loi sur la protection du consommateur québécoise.
Ça ne s'applique pas à une compagnie de l'Ontario. Là.
Alors, bon courage, mais c'est un peu la pagaille en ce moment, comme chantait la chanteuse Morane.
Oui.
Merci beaucoup.
C'est pas gay, la pagaille.
Oui,
merci.
Et ce n'est pas gay, la pagaille. On revient dans un instant. Il est 15h33. Denis Couture de Cogeco Nouvelles. La tension monte là, à la manifestation de Montréal.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a, en tout cas, je sais pas, pour l'instant, c'est bon, il y a un face-à-face entre policiers et manifestants. On se regarde et les manifestants, disons, sont très enthousiastes. Est-ce qu'il y aura des problèmes? On peut pas vous le dire pour l'instant. Notre reporter, d'ailleurs, Sabrina Rivet, est en direction du coin Saint-Urbain et Sainte-Catherine, là, tout près du quartier général du SPVM. Et durant la journée, ben, il y a plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées à Montréal pour dénoncer le racisme et la brutalité policière. C'est des manifestations, très pacifiques. Les manifestations se sont mises en marche à la place Émilie-Gamelin à Montréal pour défiler sur d'importantes artères du centre-ville de la métropole. On a fini ça au square d'Orchester. Les gens se sont dispersés, mais là, il y en a une partie qui sont tout près là, du quartier général de la police de Montréal. Jusqu'à présent, là, l'événement a eu des allures festives et on n'a pas signalé de débordement.
Et un nouveau bilan au Québec.
Oui, un nouveau bilan qui est assez encourageant puisqu'il y a 19 nouveaux cas, c'est-à-dire 225 nouveaux cas et 8 décès, pardon. Là, c'est celui de l'Ontario dont je vous parlais. J'y reviens dans quelques secondes. Cela porte le nombre total de personnes infectées au Québec à 52 849. Le nombre de décès se chiffre à 4 978. Le nombre d'hospitalisations est à la baisse. Et là, en Ontario, les nombres de nouveaux cas et de décès sont supérieurs à ceux du Québec aujourd'hui. 415 nouveaux cas et 19 décès. Les nouveaux cas portent le total dans la province à 30 617. Et le nombre de personnes hospitalisées est à la baisse aussi en Ontario, des résultats encourageants pour l'instant. Dans le monde, le nombre de décès dus à la COVID-19 a franchi aujourd'hui le cap des 400 000 personnes qui sont décédées. de la COVID-19. Le nombre de victimes s'établit précisément à 401 106 morts. Des experts en santé préviennent toutefois que le nombre de victimes pourrait être beaucoup plus élevé. Le Brésil, par exemple, semble jouer avec les chiffres. Les victimes seraient beaucoup plus nombreuses que ce qui est affiché dans ce pays. Et le nombre de personnes infectées frôle maintenant les 7 millions sur la planète.
Et là, dans le monde, ça augmente par jour à environ 100 000 nouveaux cas.
Oui.
Alors qu'en avril, on était à ce nombre-là. Ben, le 3 juin dernier, on a dépassé le 100 000, là. 130 400 le 3 juin dernier. Ce qui fait en sorte que ça augmente beaucoup à travers le monde,
ouais,
c'est les pays où ça n'a pas régressé, Denis.
Ouais.
En Afrique, en Amérique latine également, ce sont là de bons exemples, là, quand on pense au Brésil, qui est l'épicentre de la pandémie.
Ouais, il faut, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la progression de la maladie ne se fait pas partout en même temps.
Et tout à
ici,
fait.
Semble-t-il, qu'en tout cas pour la première vague, espérons qu'il n'y en aura pas une deuxième, mais pour la première vague, les chiffres là, au Québec et au Canada en général sont très encourageants.
Merci, Denis.
Un plaisir.
François?
Petite question ici d'un auditeur, une question fiscale. Sa conjointe a reçu des versements de la CNESST pour un retrait préventif en 2019. Est-ce que ce montant est imposable parce que la CSST, donc la CNESST, lui a envoyé un relevé 5? Non seulement vous avez reçu un relevé 5, mais vous avez reçu un T5007 aussi qui est attaché à ce relevé-là. Parce que non, ce n'est pas un montant imposable au fédéral. Par contre, vous devez l'inclure dans vos revenus. Il sera déduit avant le revenu imposable, tout simplement parce qu'on se sert du revenu net, bien important, pour calculer les crédits de TPS, puis etc. Même chose au Québec, sauf que au Québec, il y a ce qu'on appelle une petite twist.
Oui.
Dans le relevé 5, non seulement il y a le montant de la CNESST, mais il y a une case M. Et ça, on appelle ça un redressement pour indemnité de remplacement du revenu. Ça, ça date de 2003, ça. Une petite invention du ministère du Revenu, parce qu'on se disait, ça n'a pas de bon sens que les gens qui reçoivent la CNESST soient favorisés et ne paient pas d'impôts sur les montants qu'ils reçoivent. Donc, on enlève une portion de, tu sais, du crédit personnel de base, on enlève une portion à ce moment-là. C'est moindre que l'impôt à payer, mais c'est plus que si tu n'avais pas d'impôt du tout à payer, là.
Le crédit personnel de base.
Oui, qui est de 15 269 cette année là, au Québec. Là.
C'est quoi, alors, ça?
C'est le crédit personnel de base. Donc, tu as le droit à gagner jusqu'à 15 269 $ avant de payer de l'impôt.
Ah, OK. Okay. Très bien.
Alors, donc, c'est la réduction de base pour personnel. Alors, on va réduire ce montant-là. Par exemple, vous avez eu 25 000 $ de CNESST pour 2019. On vous enlève 5 000 $ il vous resterait un crédit de 10 000 $ seulement.
Okay.
Alors, donc, ça vient réduire la possibilité de ne pas payer d'impôt.
Et okay? Donc...
Mais au fédéral, ça n'a aucune incidence.
Au-delà de... Tu sais, par exemple, quand tu fais 20 000, tu vas payer de l'impôt.
Ben oui. En théorie, oui, là, parce que normalement...
Mais très peu. Très peu.
Mais ce qui risque de coûter plus cher, c'est ton assurance médicament, là, qui est autour de 626 $.
Oui, 700, quelque chose.
626.
OK.
Ça a baissé par rapport à l'année passée. L'année passée, c'est 641,50. Cette année, c'est 626.
Mais ça, cette affaire-là, en passant, ça fonctionne quand même bien. Moi, je l'ai, là. Je paye ce truc-là. Donc, je suis assuré par le gouvernement du Québec.
Ben oui.
Et j'ai eu à aller me chercher une crème de cortisone.
Oui.
Et pour une petite inflammation de la peau, ça s'est réglé en très peu de temps. Et la crème m'a coûté beaucoup moins cher. Là. Je pense que ça m'a coûté autour de 10 $ au lieu de 50 ou 60 $. Donc, même cette assurance-là qui est publique, ben, ça fonctionne bien la plupart du temps, je le souhaite. C'est sûr qu'il y a des laissés pour compte, là, mais au moins, nous avons ça.
Il y en a un qui va avoir le lait, le petit beurre, le petit lait du beurre. Il veut tout avoir, lui, là.
Explique-nous ça.
Je suis travailleur essentiel. Ai-je droit à la PCU et la PIRT si je n'ai pas gagné 550 $ dans mon compte bancaire par semaine? La PIRT peut-être, mais pas à PCU. Si vous travaillez, vous n'avez pas le droit. Parce qu'à 550 $ par semaine, vous allez dépasser de 1000 $ par mois. Ça, c'est clair. Alors donc, vous ne pouvez pas avoir la PCU puis le PIRT en même temps. On ne peut pas tout avoir. Là. C'est bien important de bien le comprendre. Ne demandez pas la PCU si vous travaillez à temps plein. Mais par contre, si vous êtes un travailleur essentiel et que vous gagnez moins de 550 $ et pas plus de 28 600 $ de revenus total, c'est bien important, là, de revenu total prévu au cours de l'année 2020, Alors ça, ça inclut, par exemple, si vous êtes à votre retraite, là, que vous avez 55 ans et plus, par exemple, que vous touchez déjà vos montants de retraite d'un ancien employeur, à 60 ans, si vous prenez la régie des rentes, ben il faut compter ça dans le revenu. Ça va en éliminer beaucoup, ça.
Parfait. Okay. Michel est là. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel.
Michel, bonjour.
Vous m'entendez?
Oui, 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 là, oui. On vous entend.
OK, merci. Écoutez, j'ai un petit festo sur les spectacles à Montréal, puis on est fermé depuis le 15 mars.
Oui.
On est deux propriétaires, on est salariés aussi.
Oui.
100 par deux semaines, c'est ce qu'on se donne. Là, on a la PCU, oui. Mais comme ça s'achève par la suite, est-ce qu'on va pouvoir avoir la subvention salariale? Parce qu'on travaille quand même, là, en attendant... On s'occupe quand même de la business, l'administration et tout ça, moins que quand c'est ouvert. Mais quand ça va réouvrir, pour nous, dans notre cas, c'est sur ces réservations, ça ne sera pas du jour au lendemain. On s'entend que même si demain,
mais c'était quoi le c'était quoi le salaire qui, oui? Que vous vous donniez par semaine?
200.
Pas plus que ça?
Non. Non.
Bon, OK. Non, non, c'est correct. C'est pas un point de vue.
On est travailleurs autonomes, oui.
Non, non, mais c'est pas un jugement que je porte là. Mais là, votre entreprise, est-elle incorporée?
Oui.
Elle est incorporée. Alors donc, oui. Oui, vous pourriez obtenir la subvention salariale après la PCU. Mais ça va être calculé à partir de la moyenne des salaires que vous vous êtes versés entre janvier et la fin février. Alors, prenez la bonne méthodologie.
Okay, oui. Oui, je comprends.
Ça vous comprenez, là? Alors, allez sur le site, là, tapez SSUC et tous les détails sont là. Faites votre inscription, vous serez probablement à votre dernière PCU demain, cette semaine, donc. C'est la dernière portion à laquelle vous avez droit, là, parce que vous allez en avoir reçu 4. Alors, moi, je vous inviterai à commencer déjà à faire les démarches pour obtenir la SSU, là.
OK.
Ça vous va?
Excellent.
Ben excellent. Oui, merci beaucoup. Au revoir.
Bon, Sabrina, qu'est-ce qui se passe à Montréal? On a dit tantôt que la tension montait, là. Sabrina arrivait de Cogeco Nouvelle. T'es retournée sur place, là.
Ben oui, j'étais de retour à la station et là, j'ai dû me rendre à nouveau sur le terrain. Et là, je vous parle en direct de la rue Sainte-Catherine à l'intersection de la rue Saint-Urbain. Alors, on est à quelques pas à peine du quartier général du service de police de Montréal. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des policiers, des membres de l'escouade tactique qui bloquent, en fait, la rue Saint-Urbain et les manifestants leur font face. Ce qu'on m'a dit, c'est que la tension a monté au cours des dernières minutes. Il y a un manifestant qui aurait lancé un objet vers les policiers, mais somme toute, pour l'instant, ça se passe quand même dans le calme. On scand évidemment des slogans là, depuis les dernières minutes. Je vous dirais également, je regarde la place des Arts parce que c'est tout juste à côté. Et il y a des policiers qui se tiennent également sur le balcon de la place des Arts alors qu'ils sont prêts à intervenir en cas de débordement. Mais je vous dirais qu'ici, il y a quoi? Peut-être quelques centaines d'individus qui se sont regroupés ici. Donc voilà, ce sont les derniers dénouements de la manifestation. Alors, il semble qu'un petit groupe se soit agglutiné ici. Et comme je vous dis, il y a vraiment des policiers de l'escouade tactique qui font face aux manifestants et les manifestants qui sont très, très près également des policiers. Alors, c'est un face-à-face, disons-le ainsi, entre les manifestants et également les membres de l'escouade tactique du SPVM.
Donc, un face-à-face relativement calme, si ce n'est que de ce manifestant qui a envoyé un objet vers les policiers. Les policiers n'ont pas répliqué avec la force, là.
Non, non, pas pour l'instant. Il n'y a pas eu de réplique avec la force des policiers. Mais quand même, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a peut-être quelques dizaines de minutes, on pouvait sentir la tension, mais on sent quand même que l'esprit jovial qu'avait la manifestation, ici, je vous dirais qu'on le ressent un peu moins. On sent vraiment cet affrontement entre les policiers et les manifestants. Mais comme je vous dis, pour l'instant, ça se passe de manière quand même relativement assez pacifique, c'est-à-dire que les gens sont debout, font face aux policiers, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'affrontement.
Parfait. Très bien. Merci, Sabrina.
Ça fait plaisir, à tantôt.
À tantôt. Il est 15h presque 45. Nous allons revenir dans un petit instant, François, pour un dernier blitz afin de répondre à vos questions. 15h47, dernier bloc avec vous. Evelyne, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, j'appelle parce que je suis une éducatrice, puis j'aimerais savoir, puisque le ratio en ce moment, c'est que de 30 à 50 %, je voulais savoir si je pourrais faire une autre demande de PCU puisque le 100%, normalement, ça serait seulement à partir du 13 juillet. Je ne sais pas si vous me suivez.
Pas tout à fait, mais j'essaie de comprendre.
OK, okay. C'est alors, parce que normalement, nous, je veux dire, on ne fonctionne pas avec 100% des enfants. C'est okay. Dès le début, là. Donc, c'est sûr qu'il y a moins d'enfants, donc on finit plus tôt, donc on a moins d'heures, exemple. Oui. Alors là, je me demandais si je pouvais faire encore une dernière demande ou...
Bien, en fait, il ne faut pas que vous ayez gagné plus que 1 000 dans le mois de juin, là.
Mais c'est ça, mais dans le fond, je peux pas le savoir vraiment parce que on recommence demain.
Oui, petit conseil ici que je vais vous donner. Là. Oui. Ça va être bien, bien simple. Oui. Recommencez à travailler, puis attendez 3 semaines avant de faire votre demande. Vous pouvez le faire de façon rétroactive si vous voulez.
Ah oui?
Oui, tout à fait. Parfait. Alors donc, prenez le temps de voir combien vous allez avoir gagné là, durant les 3 premières semaines. Si vous dépassez déjà 1 000 $ après 3 semaines, là, demandez pas à PCU. Okay. Si vous êtes pour être certaine de ne pas gagner moins de 1 000 $ après 3 semaines, là, parce qu'il va vous rester 1 semaine, faites votre demande de PCU puis gardez-la. Il n'y a pas de problème.
OK, parfait. Puis tantôt, vous aviez parlé du PIRT, ben, que j'avais jamais entendu parler. Ça, est-ce que c'est rétroactif?
Oui, c'est rétroactif, mais il ne faut pas avoir eu la PCU, par exemple.
OK, mais je veux dire, oui, mais c'est ça. Mais un coup que je recommence à travailler, je vais avoir mon salaire normal, donc je n'aurai pas de PCU. Donc, est-ce que je peux faire quand même la demande? C'est sûr que ça ne sera pas rétroactif, mais est-ce que je peux l'avoir encore ou c'est seulement pour un délai?
C'est 16 semaines à partir du 15 mars. Donc, va falloir que vous fassiez vos calculs comme il faut, savoir si le 2 000 $ n'est pas plus payant pour vous que d'avoir 100 $ par semaine pendant le mois de juin. Là.
OK, parfait.
OK.
Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Merci, Evelyne.
Ça fait beaucoup de programmes et beaucoup de calculs à faire en même temps.
Julie, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Good. Petite question. Est-ce que un des gouvernements a créé comme une subvention quelconque pour le démarrage d'entreprise pendant ce merveilleux temps de pandémie?
Bon, là, le gouvernement fédéral a annoncé 14 milliards, qui comprend entre autres le 600 $ pour les personnes handicapées, là, mais il reste pour verser aux provinces qui, elles, devront voir à reverser ça aux entreprises pour leur permettre de redémarrer dans le sens où s'ils ont besoin d'équipements spéciaux.
Oui, mais selon ma compréhension, non, Julie, elle n'a pas en business.
Exactement.
Vous partez en business, vous, là?
Ben, ça serait chouette.
C'est sûr que ça serait chouette. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de programme qui existe là, pour vous. Là. À moins...
c'est ça, parce que j'ai essayé de regarder, puis j'ai rien trouvé, fait que je me suis dit...
Non, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, là.
OK, donc c'est la traditionnelle, puis il y a quelques programmes, là, mais c'est... OK, bon, mais je voulais juste être sûr qu'il n'y avait rien de créé, qu'il m'avait passé entre les doigts.
Pas pour l'instant.
Est-ce que vous pensez que ça serait dans un éventuel...
je sais qu'on a parlé de start-up, là, mais,
ouais, mais
c'est pas concret, là.
C'est pas dans le genre... Tu sais, une start-up, c'est pas comme elle.
Non, c'est ça, c'est ça.
C'est plus dans le techno, ça, là.
Oui. OK, bien, merci beaucoup, messieurs. Bonne fin de journée.
Bien, vous aussi. Attention,
parfait.
Vous.
Merci, Julie, d'avoir appelé. Salane, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, là, j'appelle pour ma femme, donc elle travaille dans la garderie.
Oui.
Bon, elle a commencé de travailler juste au mois de janvier, donc elle a fait janvier, février et mars.
Mm-hmm.
Et malheureusement, il y a la COVID, donc il y a la garderie qui a fermé.
Oui.
Elle n'a pas fait les 5 000 $ pour l'année. Je lui ai fait la demande pour la PCU.
Oui.
Je ne savais pas, pour moi, j'ai compté, puisqu'elle a fait la formation en 2019, elle a eu un prêt, donc une prêt-bourse de 3 000 $. Donc, j'ai fait les calculs, j'ai dit, c'est 5 000. Je ne savais pas que ce n'est pas inclus l'aide financière.
Non.
J'ai fait la demande, on a eu, oui, c'est ça. Donc, on a eu la PCU pour les 3 mois qui a passé, mais je l'ai mis à côté pour rembourser ça. On a appelé la garderie, donc on lui dit, est-ce que c'est possible de faire la subvention pour...
Subvention salariale?
Mars, avril, mais oui, c'est ça. Donc, pour les premiers temps, elle a dit, non, je ne peux pas faire ça, je vais voir après. Bon, moi, je n'ai pas des sous et tout, OK?
Ouais.
Mais quand ils ont annoncé le retour, le 1er juin, donc, elle a eu la moitié des enfants, mais ils ont changé. Donc, c'est 4 enfants par éducatrice. Donc, Elle faut rassembler tout le personnel.
Oui.
Donc, elle lui a appelé, elle lui a dit, OK, tu retournes et je vais te faire la subvention à partir de mars.
OK.
Okay? Mais, oui. Ouais, mais là, c'est... si je compte, est-ce que par exemple, si elle lui donne la subvention à partir de mars, avril et mai, donc on va avoir les 5 000.
Okay.
On va avoir les 5 000
mais,
pour
votre l'année. Question, votre question, non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, Salam.
Ouais.
OK. Le 5 000 pour l'année, là, c'est les 12 mois précédant le mois de mars, au moment où elle a perdu son emploi. Les subventions, ça ne rentre pas là-dedans. Si elle a eu un prêt étudiant, etc., ça ne rentre pas là-dedans. Ça ne rentre pas dans les gains. C'est 5 000 $ de travail. Là, si elle embarque sur le SSU à partir du 15 mars, comme la garderie veut le faire, vous allez être obligé de rembourser le 6 000 $.
Oui, mais à partir de juin, je vais retourner la PTU, mais à partir de juin, elle va pas travailler à peu près 1 000 $ par mois, parce qu'il y a le nombre des...
Mais elle n'a pas. Non, non, regardez. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Elle va être sur la SSU de toute façon. Et de toute façon, elle n'a pas gagné 5 000 $ au cours de l'année 2019. Elle n'a pas le droit. Mais... Elle n'a pas le droit de toute façon à la PCU.
Oui, c'est ça. Mais je parle de PCU parce que la PCU se termine jusqu'au octobre.
Oui, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas gagné 5 000 $ C'est bien important. Là. Si vous n'avez pas gagné 5 000 $ au cours des 12 derniers mois avant de la perte de votre emploi ou encore au cours de 2019, vous n'avez pas le droit à la PCU. Donc, mon cher Salam, il va falloir rembourser le 6 000 $ et au surplus, elle n'aura pas le droit d'en demander en plus.
Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce que vous pensez, je pense qu'elle aura pas mal plus que 1 000 $ par mois en raison de la subvention salariale.
Et voilà.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Jean, maintenant, bonjour.
Bonjour à vous deux. Moi, j'avais une question. C'est pour mon épouse.
Oui.
C'est une travailleuse saisonnière.
Oui.
Elle a arrêté de travailler au mois de novembre l'an passé.
Oui.
Elle a fait sa demande d'assurance chômage normale, régulière. Mais on est parti pour l'hiver. Ça fait qu'elle n'a pas retiré jusqu'au 20 mars lorsqu'on est revenu au pays.
Oui.
Là, elle a refait sa demande. Elle a reparti sa demande le 20 mars. Puis, selon l'assurance chômage, elle est obligée de rester sur sa demande régulière et non appliquée sur la PCU. Mais son assurance chômage se termine au mois d'octobre.
Oui.
Et sa portion de travail où ce qu'elle travaille est fermée à cause de la COVID.
Bien, techniquement parlant, là, si elle n'avait pas eu le droit à l'assurance emploi, comme vous êtes parti et qu'elle ne travaillait pas et qu'elle n'a pas perdu son travail à cause du COVID, elle n'aurait pas eu le droit de toute façon à la PCU. Il faut vous considérer chanceux d'avoir l'assurance emploi, mon cher ami.
OK. Non, parce que au moins de...
Oui, je vous écoute.
Oui, bien là, de toute façon, il faut conclure.
Il faut conclure parce qu'on doit quitter, là, mais regardez, il y avait le droit à l'assurance emploi, mais il n'aurait pas eu le droit à la PCU de toute façon.
Très bien. Merci, Jean.
Ben, merci beaucoup.
François, merci d'avoir été là.
Oui.
Dans un instant, c'est un 5 à 7 qui commence d'avance et qui se finit au-delà de 7 heures sur le réseau Cogeco avec le meilleur des années 80-90. La bonne musique à venir. Portez-vous bien. On va se reparler la semaine prochaine à midi pour une autre émission de Vos finances en temps de pandémie.